Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Après les libations de fin d'année et les bonnes résolutions du nouvel an, nous sommes nombreux à reprendre notre corps en main avec l'espoir de le régénérer, de le purifier, de perdre du poids en pratiquant une forme de jeûne ou en faisant une cure détox. Mais ces pratiques sont-elles bien utiles et efficaces? Permettent-elles vraiment de nettoyer les déchets accumulés par une alimentation trop salée, trop sucrée, trop grasse, composée de trop d'additifs? Quels sont leurs bienfaits et leurs dangers? Quels effets sur notre système digestif, nos intestins, notre foie? Que nous dit la recherche scientifique sur l'amélioration de notre santé ou de notre forme? Comment repérer les dérives des charlatans qui recommandent par exemple d'abandonner un traitement médical au profit d'un jeûne ou d'une détox? Éléments de réponse avec nos experts. Nous attendons toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi, grand bien vous fasse.
On met de la pomme granny parce que c'est la moins sucrée, la plus acide. On met du gingembre qui va faciliter la digestion. Des graines de lin moulues qui vont aussi nettoyer l'intestin. Et du céleri qui est riche en potassium. C'est un jus qui va détoxifier, qui va activer la digestion et qui est riche en fibres.
Une détox water avec citron, gingembre et charbon et un bol quinoa, brocoli, fenouil, avocat, fèves.
Déjà on n'a pas l'espèce de grosse fatigue après un déjeuner copieux, on n'a pas de difficulté de digestion.
C'est pour amener du calme, de la détente ou un apaisement, ou peut-être si je suis un peu malade, si je ne me sens pas très bien.
C'est surtout un effet sur le moral, c'est-à-dire qu'on a mangé correctement et donc on se sent mieux.
Extrait du magazine de la santé sur France 5, les cures détox qui font de plus en plus d'adeptes, notamment au début d'année. Bonjour professeur Gabriel Permuter.
Bonjour Ali.
Vous êtes chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition de l'hôpital Antoine Béclair. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes du foie en France et vous avez récemment publié chez Flammarion Versilio les pouvoirs cachés du foie. Bonjour professeur Antoine Avignon.
Bonjour.
Vous êtes endocrinologue et vous êtes chef du service nutrition-diabétologie au CHU de Montpellier. Bonjour docteur Patrick Serrogue. Vous êtes médecin nutritionniste, vous avez récemment publié chez InPress « Bien manger, bien vivre, bien vieillir ». Et bonjour Thomas Hull.
Bonjour Ali.
Vous êtes directeur fondateur de La Pensée Sauvage, vous êtes naturopathe et vous aviez publié chez Pocket « Et si je mettais mes intestins au repos ». Alors au fond, à quoi répond cette envie de détoxifier son corps? Le nutritionniste et psychiatre Bernard Westfeld disait ceci récemment dans le journal Libération. La détox répond à une demande de reprise de contrôle sur le corps et sur l'aliment, un comportement purificateur et expiatoire par rapport à tout ce qu'on a pu se faire comme mal et qu'on ne sait pas gérer autrement, et d'ajouter, nous tombons dans un nouveau type de trouble alimentaire engendré par l'obsession de la pureté diététique. Vous partager ce constat, Antoine Avignon?
Oui, je suis assez d'accord avec. Déjà, on peut poser la question, pourquoi parler de détox après les fêtes? Est-ce qu'il y aurait un sentiment de culpabilité, je dirais entre guillemets, avec Noël, de péché, où on aurait abusé et que maintenant, il faudrait faire pénitence? Donc moi, c'est la première question. Deuxièmement, il y a la pression de la société qui vient derrière avec cette image de minceur. Puisque maintenant, vous avez abusé, attention, contrôlez vos corps. Et de trop mettre la pression sur le contrôle du corps conduit aux troubles alimentaires. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Docteur Patrick Serrock, sur cet aspect puritain, entre guillemets, de la détox.
Oui, alors il y a puritain et puis il y a aussi l'aspect imaginaire. Dans notre imaginaire, nous avons besoin effectivement, à certains moments, de changer notre alimentation, soit pour nous purifier, mais ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, au travers des différentes religions. Il y avait toujours des moments de pénitence, de jeûne alimentaire, de détoxification. Donc, ça a toujours été finalement un besoin de l'homme pour retomber un petit peu sur ses pattes.
Thomas Hull, sur la détox, qui ça va rentrer à une sorte de pénitence?
Alors, en effet, tout à fait, après les fêtes, on peut avoir ce sentiment-là. Je pense que généralement, on est plutôt à la recherche de retrouver l'envie, de retrouver de la vitalité. Et c'est un sujet beaucoup plus vaste, finalement, qui va au-delà de se priver.
Professeur Palmuter.
Oui, je partage ce sentiment, en fait. La détox après les fêtes, c'est d'une part une envie de recontrôler son corps, son organisme, qu'on peut faire facilement par l'alimentation. Ça s'associe à un exercice physique, ça s'associe à un retour sur soi, comme par exemple, on peut rapprocher ça de la méditation, de la sophrologie, où dans ce retour sur soi, on a un certain contrôle qui passe également par l'alimentation. Si on se fait du bien, pourquoi pas ?
Alors, que se passe-t-il quand on mange beaucoup trop, quand on a abusé pendant les fêtes? Comment réagit le système digestif face au trop-plein? Que se passe-t-il dans notre estomac, notre foie, nos intestins, quand on leur inflige beaucoup trop de nourriture, professeur Perlmutter?
Alors, tout dépend si c'est aigu ou chronique. Au niveau du tube digestif, vous allez avoir, en fonction des aliments que vous allez prendre, un ralentissement du transit, notamment quand vous mettez des graisses au niveau de l'estomac. Vous pouvez avoir inversement, quand vous mettez de l'alcool qui est pris pendant les fêtes, une augmentation de la perméabilité de l'intestin, avec un processus inflammatoire qui arrive, les métabolites de l'alcool qui arrivent, avec des conséquences qui vont arriver au niveau du foie, ou dès que vous mangez un peu trop ou que vous avez une alimentation un peu trop riche en sucre, au sens large, le sucre, c'est pas juste le morceau de sucre du café, c'est tous les féculents, par exemple, vous pouvez avoir une augmentation des enzymes du foie avec une destruction de certaines cellules du foie. Si c'est quelque chose d'aigu, l'organisme répond bien et vous allez régénérer et tout ça, ça va passer en quelques jours. Si vous faites ça de façon beaucoup plus chronique, de façon répétitive, vous pouvez aller jusqu'à la formation de maladies diverses au niveau de l'organisme. Alors pour le tube digestif, quand vous avez un déséquilibre alimentaire chronique, la caricature, c'est la survenue de cancer du tube digestif. Au niveau du foie, c'est la survenue d'hépatite liée à la nutrition, qu'on appelle la maladie du soda, la stéatopathie métabolique ou la NASH, avec ses propres complications, en particulier le cancer du foie.
Alors, face à ce trop-plein de nourriture, certains éprouvent le besoin de s'alléger, de nettoyer les déchets accumulés par une alimentation trop riche. On a spontanément envie, après les fêtes, de moins manger, de faire une cure détox, une monodiète. Une idée reçue veut que ces pratiques éliminent des toxines. Mais c'est quoi exactement des toxines? Est-ce que ça existe d'un point de vue médical, Gabriel Perlmutter?
Alors, tout dépend ce que vous appelez toxine.
Quand on le langage courant.
Dans le langage courant, c'est ce qu'il y a bien de toxique. Mais il y a des véritables toxines qui peuvent apparaître. Par exemple, vous avez des toxines d'origine digestive. La caricature de la toxine, c'est des dérivés bactériens qui vont passer du tube digestif dans le sang, qui vont entraîner un processus inflammatoire qu'on appelle des lipopolysaccharides. Et qui, c'est la caricature, qui vont passer dans le tube digestif, puis dans la circulation générale et entraîner un processus inflammatoire. Et il est vrai que quand on fait plus attention à son alimentation, on va diminuer cette inflammation, on va diminuer la formation de produits qui sont fabriqués au niveau du tube digestif, au niveau des bactéries qu'il y a dans le tube digestif, avec une amélioration, une diminution des processus inflammatoires. Ça, c'est de façon scientifique et globale. Après, vous avez des raccourcis qui sont faits sur les toxines. Je fais une cure détox, où là, on n'est pas scientifique, on est dans le milieu médiatique, avec une part de vrai et une part d'extrapolation par rapport à la réalité scientifique.
Tiens, Marianne nous dit qu'elle vient d'entamer une cure de jus d'artichaut et de radis noir pour éliminer les toxines. Est-il bien utile de boire ce type de jus pour détoxifier, entre guillemets, son organisme, professeur Avignon?
D'ailleurs, sur la question d'avant, est-ce qu'il y a des produits toxiques dans l'alimentation? Oui. Est-ce qu'il y a des produits chimiques dans l'alimentation?
Des additifs,
oui.
Évidemment.
Des additifs, des polluants, des dérivés qui viennent des plastiques qui emballent. Donc, est-ce qu'il y a des produits toxiques? Je crois qu'il n'y a pas de question. Est-ce qu'il y a des produits chimiques? Oui. Et je dirais même qu'il y en a de plus en plus, il y en a des milliers. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que de boire du jus d'artichaut va éliminer...
Et de radis noir.
Et de radis noir va éliminer ces toxiques. Il y a deux choses. La première chose, c'est est-ce que la quantité de ces produits chimiques est suffisante pour avoir des effets délétères sur la santé? Donc déjà là, il y a un niveau de démonstration qu'on n'a pas, pour certains. Après, il y a des perturbateurs endocriniens, des choses qu'on connaît, mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Et puis la question, jus d'artichaut, radis noir, est-ce que... Vous savez, mais moi, en tant que scientifique, je cherche la moindre publication qui me le démontre. Donc moi, je n'ai pas de publication qui me le démontre, donc pas de jus d'artichaut, radis noir. Mais...
Alors, les jus d'artichaut, radis noir, l'artichaut et le radis noir, il y a des publications des pays asiatiques qui suggèrent que... dans des modèles animaux, dans des cellules, l'artichaut ou le radis noir peuvent protéger le foie. Après, c'est pas des jus qui sont pris. Quand vous prenez un jus, vous supprimez toutes les fibres qu'il peut y avoir dans les aliments et vous perdez l'utilité. Si la personne qui prend son jus d'artichaut radis noir, moi je lui conseillerais de le prendre plutôt en légumes, lui fait du bien, pour moi qu'elle y aille.
Oui, mais attention, je me permets d'intervenir. Oui, des expériences chez l'animal, vous avez aussi avec la coriandre, vous avez avec différentes algues, et vous pouvez par exemple diminuer le plomb fortement dans l'os chez l'animal. Donc ça, des démonstrations chez l'animal et des orientations, oui. Prendre des aliments, quels qu'ils soient, donc pourquoi pas du radis noir, mais pourquoi pas du chocolat, n'importe quel aliment, du moment qu'on se fait plaisir et qu'on consomme avec modération, tout aliment, je dirais, fait du bien. Manger, c'est pas seulement pour son corps, c'est un bien-être global.
Alors à titre personnel, je préfère la détox au chocolat qu'au jus de radis noir.
Sauf que le chocolat est plus riche en hydrates de carbone quand même et en graisse que l'artichaut et le radis noir quand même.
Votre regard, Thomas Hull.
Alors oui, mon regard sur l'artichaut par exemple et le radis noir sont des plantes qui vont être à la fois protectrices au niveau de la sphère hépatique mais également drainantes. Pour moi, on n'est pas dans une cure détox quand on prend de l'artichaut, du radis noir, mais on vient simplement soulager sa sphère hépatique. On vient donner un petit coup de pouce pour avoir un côté un petit peu drainant. Le côté détox dont on parle est bien plus global. Et évidemment, qu'en plus le goût de l'artichaut ou du radis noir en jus, on est à mon avis loin du plaisir du chocolat. Mais on est plutôt sur une version de pouvoir prendre soin de soi pour drainer son corps. Mais ce qui est très complémentaire d'une cure détox en soi, mais qui n'en est qu'un simple élément.
Professeur Gabriel Permuter, quels sont les organes qui nous permettent naturellement, sans détox, sans jeûne, d'évacuer les déchets de l'organisme? Je pense bien évidemment au foie, qui est notre usine de traitement des déchets.
Alors effectivement, le foie, moi j'aime bien le décrire comme une véritable usine écolo, puisque le foie est le premier organe après l'alimentation qui où tout ce que vous mettez dans votre tube digestif va passer, que ce soit du sucre, que ce soit des graisses, que ce soit des protéines, que ce soit de l'alcool, que ce soit des polluants, que ce soit des additifs, etc. Et le foie est bourré d'enzymes qui permettent de détoxifier tout ça, de l'épurer, et le foie va produire d'autres toxines moins toxiques que ce qu'on mange, qui vont elles-mêmes être épurées, comme un bon écolo, et tout ça après va passer dans le sang et va être éliminé par le rein. Quand vous prenez aussi des médicaments, certains médicaments vont avoir des composés toxiques qui vont être immédiatement détruits par le foie, et donc c'est un organe extrêmement important nous épurer des éléments toxiques qui nous entourent. C'est bien connu pour l'alimentation, les médicaments, on commence à le voir pour les polluants qu'il y a. Il y a d'autres organes qui permettent d'épurer, vous avez le rein, vous avez le poumon. Voilà.
Question un peu bête, mais est-ce que le foie ou les reins peuvent s'encrasser comme un filtre?
Absolument. Le foie, quand vous avez une alimentation qui est trop riche en alcool, pas forcément. Dans le cadre d'une ivresse, j'ai trop de patients qui me disent « moi j'ai jamais été ivre », mais quand vous avez une dose quotidienne d'alcool pas forcément importante, mais qui est d'autant plus toxique que vous avez un peu en surpoids, eh bien vous pouvez avoir votre foie qui se gorge de graisse, vous pouvez avoir une diminution des fonctions hépatiques, et du coup être plus sensible à la toxicité de certains produits. Quand vous prenez de l'alcool, la toxicité des sucres est plus importante, inversement, quand vous êtes en surpoids, la toxicité de l'alcool est démultipliée.
Alors je m'adresse au médecin nutritionniste Patrick Serog. Est-ce qu'en ce début d'année, vous préconisez une mise au repos du système digestif?
Non, mais ça c'est une question très fréquente des patients quand ils viennent consulter. Ils viennent pas d'ailleurs spécialement pour ça, mais c'est au travers de la consultation qu'ils vont demander ce conseil. C'est vrai que mais c'est du bon sens. Quand vous avez beaucoup mangé pendant les fêtes, vous allez effectivement réduire votre alimentation, vous allez vous hydrater de manière, surtout c'est ça qui est très important, de s'hydrater de manière abondante, bon. Et puis, vous allez avoir une alimentation qui va revenir peu à peu à celle que vous aviez avant, qui va se composer d'éléments simples, hein, que ce soit des protéines, qu'elles soient animales ou végétales, que vous ayez des féculents et des légumes, que vous ayez après un laitage et que vous ayez un fruit, voilà. Simplement du bon sens. Donc, on a tellement d'organes, finalement, dans notre organisme qui est pur, hein. Gabriel Perlemutter vient de parler du poumon, du rein, du foie. Il y a l'intestin aussi qui a une fonction d'épuration. Donc finalement, vous retombez très vite sur vos pattes. Donc il ne faut pas faire toute une histoire finalement quand... au cours des fêtes, on a trop mangé, on se rétablit très vite et très bien. Et
est-ce que vous êtes favorable à ces cures détox, à ces monodiètes? Quel est votre regard?
Alors, moi, mon regard par rapport aux patients que je vois depuis tant d'années, c'est que ces cures détox, quand elles sont de courte durée, ça n'a strictement aucune importance dans l'histoire du patient. Maintenant, les monodiètes, quand elles se prolongent, c'est jamais une bonne histoire. Jamais. À partir du moment où vous déséquilibrez votre alimentation, vous allez vous intéresser à simplement un certain nombre d'aliments très restreints, bien sûr qu'il y a des troubles du comportement qui peuvent arriver au bout d'un moment, bien sûr que vous pouvez quand même prendre du poids, ce qui est extraordinaire, hein. Vous pouvez augmenter votre masse grasse tout de même, donc c'est pas du tout une bonne idée de le faire à long terme. Tout ce qui est à court terme ne pose strictement pas de problème, mais à long terme, non.
Et vous, Thomas Hull, en tant que naturopathe, pourquoi préconisez-vous ces monodiètes, ces cures détox pour mettre ses intestins au repos? Expliquez-nous un petit peu.
Alors je pense qu'on est vraiment dans cette question de bon sens dont on vient justement de parler. On est aujourd'hui dans ces extrêmes où on ne sait plus retrouver cette notion de simplement, après un déséquilibre, reprendre un équilibre. Et l'équilibre, après les fêtes notamment, c'est de revenir à une alimentation qui est plus saine, qui est plus simple, et qui du coup permet au corps de se restaurer. Et dans les cures détox que nous proposons, en tout cas dans au sein même de la naturopathie, c'est de faire des courts termes, sur des courtes périodes, pouvoir rééquilibrer les excès. Mais on est toujours dans la notion de bon sens. Donc prendre peut-être 5 jours, une semaine, pour se mettre en monodiète ou même un jour, hein, suffit. Un jour toutes les semaines, par exemple, peut être un rituel très intéressant pour se remettre simplement des excès et pour aussi reprendre des bonnes habitudes. Car la problématique souvent des extrêmes, c'est qu'on perd les bonnes habitudes et on fait que ricocher. On passe d'un extrême à un autre, d'un extrême à un autre, alors que le principe même, ou l'invitation, on pourrait dire, d'une cure détox, c'est pendant un certain temps s'abstenir pour pouvoir mieux revenir. Et dans mieux revenir, c'est rééquilibrer au quotidien. Et le piège, bien évidemment, c'est de surtout pas tomber dans un effet rebond où on est constamment d'un extrême à un autre. Et là, on questionne une hygiène de vie bien plus globale, qui est à la fois psychique, émotionnelle, physique, avec du sport et alimentaire. Tout ça marche ensemble.
Professeur Perlemutter.
Oui, je suis d'accord. Quand on mange, il y a deux aspects. Il y a d'une part l'aspect biologique, on mange parce qu'on a besoin d'énergie, et il y a l'aspect hédonique, on mange pour le plaisir. Et dans ce cas-là, la quantité d'aliments absorbés dépasse les besoins biologiques et les besoins énergétiques. Et c'est dans ce contexte-là, où on arrive parfois, ou dans le cas d'une addiction à certains aliments, on arrive à un surpoids. Et dans ce cas-là, chez certains patients, il est beaucoup plus facile de faire parfois, comme il a été dit, du jeûne intermittent, certains jours par semaine de moins manger, voire de pas manger, voire de sauter des repas, plutôt qu'avoir tous les jours une alimentation équilibrée où après un certain temps, les patients en peuvent plus et puis ça ne marche pas, et on le sait que ça ne marche pas.
Professeur Avignon.
Oui, je partage à moitié ce qui est dit là. Déjà, il faut pas oublier que 50% de la population française est en surpoids ou en obésité. Donc la question de l'excès énergétique, il se pose pas qu'au niveau des fêtes, il se pose tout au long de l'année. Faire attention à son alimentation, ça ne serait pas possible. Ce qui n'est pas possible, c'est de suivre des conseils nutritionnels qui nous viennent de l'extérieur au quotidien. Mais prendre soin de soi. Et à partir du moment où ça n'est pas fait dans l'excès, toute attitude qui est faite dans le sens du prendre soin de soi n'est pas défavorable. Et par contre, je pense qu'on peut mettre du prendre soin de soi au quotidien et pas seulement certains jours. Par contre, si on va sur les périodes de jeûne ou de détox, il est vrai, et là on a des études chez l'humain qui l'ont montré, qu'il y a différentes techniques de jeûne, en particulier il y a le 5-2, il y a aussi le 8-16. 5-2 ça veut dire 2 jours de jeûne par semaine ou d'alimentation très très réduite, et 5 jours on fait pas n'importe quoi, 5 jours où on prend soin de soi. Et puis le 8-16, ce qu'on pense aussi, c'est que dans la société occidentale, nous mangeons trop tout au long de la journée. journée sur une période trop importante. Et là aussi, on a des choses et des démonstrations.
Le 8-16, c'est le jeûne séquentiel?
C'est le jeûne où on mange au cours de la journée uniquement sur 8 heures et on reste 16 heures, en tout cas plus de 12 heures, jusqu'à 16 heures sans manger. Donc en gros, on saute un repas, soit le petit déjeuner, pourtant qui est béni par les diététiciennes et diététiciens et beaucoup de nutritionnistes, soit le repas du soir.
On reviendra tout à l'heure sur ce jeûne intermittent. Alors, si on décide de faire une détox ou une monodiète pour mettre au vert son organisme, d'abord, ça ne s'improvise pas, hein, Thomas Hull. Comment on s'y prend quand on souhaite faire ce genre de régime alimentaire sur un court terme?
Alors, premièrement, on se questionne voir si on n'a pas de contre-indication à réaliser cette cure. Si c'est sur du court terme, on prévoit soit justement du 8-16 ou du 5-2, qui est très très bien. Et c'est très important.
5-2, je le rappelle, c'est 5 jours d'alimentation normale et 2 jours de détox ou d'alimentation très réduite.
Tout à fait. Et ce qui est très intéressant, en tout cas, les préambules, ce serait déjà de réduire certains excitants, le café, la consommation d'alcool, les excès. Car il est normal que si on passe d'un excès, d'une alimentation à rien, il y a des mécanismes où le corps va se manifester et va avoir quelques désagréments, des maux de tête et des inconforts. Donc c'est toujours intéressant, avant de commencer à faire un allègement finalement alimentaire, de commencer à enlever les excès. Et ensuite, le 8-16, notamment le fameux jeûne intermittent, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place. On peut soit prendre le petit déjeuner, soit le dîner que nous enlevons et être sur 8 heures de repas et 16 heures de repos digestif.
Mais Thomas, je vous posais une question plus précisément sur la monodiète et sur la détox. Comment on s'y prend pour la faire sur 3, 4, 5 jours? Donnez-nous peut-être quelques conseils.
Bien sûr, on choisit dans ce cas-là un aliment, par exemple la pomme. Et on peut, du coup, cette pomme la décliner de plusieurs façons au cours des repas. Alors, on dit souvent qu'en monodiète, on mange jusqu'à satiété. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas. Et naturellement, on a une réduction qui se fait parce qu'on sature au bout d'un moment de manger cet aliment-là. On se lasse, exactement. Ça fait partie même du processus. Et dans ce cas-là, on réduit naturellement les quantités. La pomme est intéressante car on peut la consommer de plusieurs façons et notamment cette période hivernale, on peut prendre des pommes, des compotes, on peut prendre des pommes au four. Donc c'est assez rassurant et assez réchauffant. Après, on peut également choisir de le faire en cure de jus. Mmh. Alors juste une petite alerte sur les cures de jus. Il est très important de prévoir toujours 3/4 de légumes pour 1/4 de fruits et éviter de faire des cures de jus de fruits finalement à l'extracteur où ce sont des concentrés de sucre. Donc ça, c'est un point important. Et puis, certains, notamment dans le macrobiotisme, parlent des monodiètes de riz, donc de riz demi-complet, ce qui peut être aussi intéressant en ces périodes hivernales où on prend pendant 1 jour, 2 ou 3 jours du riz avec un peu d'huile d'olive et un peu de fleur de sel. Les puristes ne mettent rien du tout, mais on peut avoir quelques ajouts. On prévoit aussi, je pense que dans les conseils pratiques, Ali, on prévoit le moment, quand est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on le fait sur un week-end où on est tranquille chez soi? Est-ce qu'on a une semaine de travail plutôt qui n'est pas trop sollicitante et qui nous permet de vivre aussi cette cure détox chez soi très bien? Ou est-ce qu'on le vit à l'extérieur dans un centre? Ça, c'est toujours important de ne pas trop se surestimer et finalement partir avec de très bonnes intentions et au final se mettre en difficulté dans son quotidien et se retrouver dans une situation d'échec en se disant « mais finalement, je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi ». Et je pense qu'au préalable, il faut bien identifier quand est-ce que c'est le meilleur moment pour soi.
Votre regard, docteur Serog?
C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un acte qui est temporaire, ça va très bien. À partir du moment où les gens commencent à reproduire toutes les semaines ce mécanisme, je ne parle pas du jeûne intermittent, mais des monodiètes surtout, c'est surtout ça le problème, on s'aperçoit qu'ils n'y arrivent pas. Ils partent effectivement avec de bonnes intentions, mais au bout d'un moment, ils vont dérailler et ils vont avoir une alimentation qui va beaucoup se déséquilibrer. Donc je ne suis pas tellement pour ces monodiètes, sauf de manière tout à fait occasionnel.
Risque, c'est également de regrossir peut-être à l'horizon quand on arrête cette monodiète ou cette cure de détox.
Alors, on peut même prendre du poids avec des monodiètes.
C'est paradoxal et contre-intuitif.
Oui, c'est paradoxal, mais ça se comprend bien à partir du moment où le besoin énergétique du corps n'est pas du tout satisfait. on est obligé de vivre, donc on fait un travail finalement interne pour pouvoir y substituer. Et dans ce cas-là, on va stocker un peu plus d'énergie. Donc on voit aujourd'hui, dans la patientèle que j'ai, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui ne mangent pas assez et qui prennent du poids, justement parce qu'ils ont utilisé beaucoup de monodiètes. Et finalement, en remangeant finalement les besoins nutritionnels dont ils ont besoin, ils vont reperdre leur masse grasse.
Vous dodelinez, professeur Avignon.
Oui, je dodeline. Autant je me bats contre la prise de poids, n'est pas un problème de balance énergétique, c'est un problème émotionnel, c'est un problème de relation, c'est un problème de société, c'est un problème environnemental. Mais n'empêche que ça passe par un déséquilibre de la balance énergétique. Et quand on mange moins de calories qu'on en a besoin, je ne vois pas comment on peut prendre du poids, là.
On peut prendre du poids à partir du moment où, nutritionnellement, il n'y a pas l'apport de nutriments suffisants. Et je vous assure qu'en les remontant l'alimentation, eh bien, effectivement, ils arrivent à maigrir.
Professeur
Parmentier. Je voudrais faire deux remarques. C'est effectivement une balance énergétique. Quand on mange trop par rapport aux dépenses, on prend du poids. Quand on mange pas assez par rapport aux dépenses, on perd du poids. Ça, c'est mathématique, c'est la réalité. Après qu'il y ait des inégalités quant à ça, c'est évident, on le sait tous. Je voudrais juste faire une remarque sur le café, où j'ai trop de patients qui culpabilisent par rapport au café. Le café est une des boissons les plus étudiées dans le monde, qui a le plus grand nombre de publications scientifiques, encore plus que le thé. Le café est une boisson avec des propriétés anti-inflammatoire, anti-fibrosante pour le foie, anti-cancéreuse. C'est vrai que quand on en prend trop, il y a de la caféine qui va exciter, mais le café est une excellente boisson sur la santé.
Oui, je partage tout à fait. Mais attention, quand on donne des messages grand public, il y a quand même des gens qui ont une sensibilité au café.
Absolument.
Il peut y avoir des troubles du rythme. Oui, donc toujours
absolument.
Être accompagné sur le plan...
Mais juste pour déculpabiliser par rapport au café.
Je suis d'accord. De toute façon, il faut déculpabiliser tout, y compris le chocolat, où vous dodelinez tout à l'heure. Tout aliment est bon, pris avec modération. Mais je partage tout à fait, mais je voulais faire cette alerte.
Allez, dans quelques instants, on s'intéresse aux vertus et aux dangers du jeûne court et du jeûne intermittent. On écoute Julien Clerc.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin. C'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile, en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va faire la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile, en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Julien Clerc, ce n'est rien.
J'ai faim.
Grand bien vous fasse.
Joe, quand est-ce qu'on mange? J'ai faim.
Ali Rebéi.
12h05, c'est pour ça que j'ai faim comme ça. Je mangerai un âne.
Sur France Inter.
11h-25, quels sont les réels bienfaits du jeûne et des cures détox? Élément de réponse avec nos experts médecins et naturopathes. Le standard, vous êtes ouvert au 01-45-24-7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Est-ce qu'il existe des études scientifiques qui montrent que ces cures détox et monodiètes améliorent le diabète de type 2, la santé cardiovasculaire, le taux de cholestérol ou de triglycérides dans le sang, professeur Antoine Avignon, vous êtes endocrinologue.
Oui, je l'avais évoqué et tout à l'heure, des expériences chez l'animal, oui, on a des arguments chez l'animal, sur des modèles in vitro, oui. Chez l'homme, il y a quelques études qui sont pas randomisées comme il faut, qui sont avec des petits nombres de patients, donc il y a des traces d'études, oui, mais rien de sérieux.
Alors, on va s'intéresser aux jeunes. Que se passe-t-il, tiens, au début d'un jeûne? Écoutons un extrait du documentaire « Le jeûne, une nouvelle thérapie ».
Le corps dispose de trois carburants, le glucose, les lipides et les protéines. Le carburant essentiel, c'est le glucose, celui dont le corps a absolument besoin pour fonctionner. Le cerveau ne peut s'en passer. Mais après un jour de jeûne, le stock de glucose est épuisé. Comment l'organisme va-t-il s'adapter? Il va très vite fabriquer du glucose, à partir des protéines, c'est-à-dire surtout les muscles. Il va aussi puiser dans ses réserves de lipides, les graisses, pour créer un substitut de glucose. Ce carburant du jeûne se nomme corps cétonique. Ce sont désormais ces corps cétoniques qui vont principalement alimenter le cerveau. L'opération s'effectue dans le foie, véritable usine de transformation de l'organisme.
Extrait du documentaire « Le jeûne, une nouvelle thérapie » de Thierry Delestrade et Sophie Guillemant. Thomas Hull, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il se passe après cette cétogénèse dans le foie? Je rappelle que vous êtes naturopathe et spécialiste du jeûne et randonnée.
Merci. Alors, nous avons en effet ces trois étapes, la glycogénèse, donc, qui vient d'être expliquée, la néoglycogénèse, où on passe dans les réserves, finalement, de graisse. Il est intéressant, et c'est dans ce même documentaire où ils indiquent à un être humain d'un mètre 70 kilos à 40 jours de réserve de graisse devant lui, et un être humain à 1m70, 90 kilos, 100 jours. Donc ça, c'est pour nous rassurer déjà sur l'expérience de 1 jour, 2 jours ou 5 jours de jeûne. Mmh. On a normalement, selon nos indices de masse graisseuse, les IMC, de masse corporelle, suffisamment pour la plupart d'entre nous de réserve pour tenir. Et dès qu'on rentre dans cette phase après cétonique, qui est un peu plus tard, qui n'est pas tout de suite, qui est plutôt au 4e, 5e jour, on rentre dans un aspect beaucoup plus anti-inflammatoire notamment, et également avec un léger état euphorique, qui est souvent traduit par les jeûneurs arrivés au dernier jour de jeûne. Alors, comment qui est lié notamment au corps cétonique.
Comment se prépare-t-on à un jeûne de 4 ou 5 jours? La préparation est aussi importante que le jeûne lui-même, et quelles sont surtout les contre-indications?
Bien sûr, alors commençons par les contre-indications. Toute personne déjà n'ayant pas l'IMC suffisant, qui sont notamment en sous-poids ou en sous-nutrition, devrait écarter le jeûne en tant que tel. Ensuite, toute personne qui a vraiment des pathologies lourdes, des traitements chimiques lourds, se verrait justement également contre-indiquer une pratique de jeûne. Après, c'est intéressant également de se renseigner auprès de son médecin, de voir qu'est-ce qui est adaptable ou pas. Bien sûr, les femmes enceintes également ne privilégieront pas le jeûne à ces moments-là. Et ensuite, on a vraiment l'indicateur de vitalité. Alors ça, c'est à double tranchant, parce que parfois, on est épuisé, et si on jeûne, on se sent mieux. Mais généralement, si on est très fatigué, il vaut mieux d'abord essayer de retrouver de la vitalité plutôt que de commencer un jeûne qui est lui-même peut-être un peu éprouvant.
Alors, on commence pas un jeûne de n'importe quelle manière. La veille, on ne se tape pas une entrecôte frite avec de la béarnaise et un Saint-Honoré. Non. Ça se prépare un petit peu en amont.
Ça se prépare au moins 5 jours avant. Et 5 jours avant, on enlève justement alors les excitants, même s'ils sont bons pour la santé. Il y a quand même une logique après qui se joue au niveau de la circulation sanguine, au niveau de la pression artérielle avec les excitants, et qui peut engendrer notamment des maux de tête quand on enlève les excitants ou le sucre ou l'alcool. Donc,
quels aliments privilégie Thomas Hull?
Oui, alors on enlève, excusez-moi Ali, on enlève d'abord les excitants, les viandes rouges, les produits laitiers, les céréales, pour privilégier justement les 2 jours avant la cure, simplement des fruits et des légumes de saison, que ce soit cru ou cuit, et on boit énormément, on s'hydrate énormément. Ça, c'est très important.
Docteur Patrick Serog, votre regard sur le jeûne de 4 ou 5 jours, le jeûne préventif quand on n'est pas malade et qu'on voilà, on a envie de régénérer son corps pour X raisons.
Il n'y a pas de danger à faire un jeûne de 4-5 jours si, comme d'habitude, on ne le répète pas de manière fréquente. Nonobstant les contre-indications qui ont été dites. Maintenant, si c'est pour juste se détoxifier, c'est bien. Si c'est dans une, dirons-nous, dans un besoin de perdre de la masse grasse, ça c'est tout à fait une autre histoire et ce sont des considérations beaucoup plus individuelles. Donc, moi personnellement, je ne trouve aucune contre-indication particulière à des jeûnes courts. Là où c'est dangereux, c'est lorsque ça se répète.
Professeur Antoine Avignon.
Oui, moi je ne sais pas ce que ça détoxifie, ça. Moi j'attends les démonstrations scientifiques. Par contre, tout ce qui est fait dans un intérêt de prendre soin de soi, si c'est fait dans ce sens-là, je n'ai pas d'opposition. Mais encore une fois, attention à la pression de la société sur la minceur. Et si c'est des solutions minceurs, ça je suis complètement opposé. Il faut vivre avec son corps et pas le contraindre en permanence.
Professeur Gabriel Permuter, je rappelle que vous êtes hépato-gastro-entérologue. Où en est la recherche scientifique sur le jeûne thérapeutique? En 2019, tiens, le docteur Françoise Wilhelmi et son équipe de la clinique Buchinger en Allemagne ont observé 1422 sujets qui ont suivi un régime d'abstinence sur des périodes comprises entre 5 et 20 jours. L'étude publiée en ligne par la revue PLOS ONE montre une nette amélioration du métabolisme avec une réduction de la pression artérielle, des taux de cholestérol et des triglycérides. Et des chercheurs, ces mêmes chercheurs, ont constaté une amélioration du bien-être chez 84% des sujets souffrant d'une maladie chronique comme le diabète de type 2 ou d'une stéatose hépatique qu'on appelle également NASH. Cette stéatose hépatique est caractérisée par un excès de graisse dans le foie. Voilà une étude récente que j'ai pu relever, mais il y a très très peu d'études, elles sont parcellaires. La recherche publique ou privée ne finance pas ce type de recherche sur le jeûne thérapeutique. Qu'est-ce qu'on sait tout de même de fiable?
Non, mais il y a une certaine logique. Là, vous voyez, on parle de patients, donc des personnes qui ont une maladie du foie, un diabète, un syndrome métabolique, et ça veut dire que ces personnes-là sont déjà, quelque part, à un moment donné dans leur vie, ont été dans l'excès. Quand vous mettez ces personnes en jeûne ou en cétose, dans des modèles animaux, on sait que la cétogénèse aboutit à la production de corps cétoniques qui vont avoir une activité anti-inflammatoire, antioxydante, voire anticancéreuse, et que globalement, quand on met des animaux en restriction alimentaire, on augmente leur espérance de vie. Donc il y a une logique à vouloir effectivement faire ce type de restriction chez les personnes, d'autant plus qu'elles sont dans l'excès et qu'elles sont malades. Et donc il est également logique que quand vous avez une personne qui a du gras dans son foie, vous la mettez en restriction, le gras va disparaître, le diabète va s'améliorer, et ça c'est tout à fait normal. Ce qui est important, c'est que l'organisme a une mémoire, et ce qui va se passer au moment où cet effort va être relâché. Vous mettez par exemple, ça a bien été montré sur le microbiote intestinal, sur les bactéries digestives, quand vous faites maigrir une souris, et qu'après vous lui redonnez une alimentation juste normale, pas forcément en surpoids, ces bactéries vont avoir la mémoire de comment elles étaient avant pendant un certain temps, et on ne connaît pas ce laps de temps, il faut mettre une pression dessus, et ça va expliquer le fait que vous allez d'un seul coup reprendre du poids, voire plus, et c'est la base de l'effet yo-yo qu'on connaît sur les différents régimes, il faut y faire très attention. Mais c'est exact que ces restrictions vont avoir un effet au moment où elles sont faites, favorable sur le métabolisme et sur le foie.
Vous parliez du microbiote intestinal. Quels sont les effets sur le microbiote d'un jeûne court de 4 ou 5 jours ou d'une détox? Est-ce qu'il y a des effets connus sur la qualité du microbiote?
Alors, sur un jeûne court de 4 jours chez l'homme, à ma connaissance, non. Et je dirais que ça n'a pas d'intérêt à faire, parce qu'on peut très bien anticiper qu'en 4 jours, soit il se passe rien, soit ça s'améliore. Ce qui est intéressant à faire, c'est de voir sur le long terme, est-ce qu'on arrive à améliorer ou pas le microbiote intestinal. On sait que quand les personnes, on arrive à leur faire perdre beaucoup de poids, on améliore le microbiote intestinal. On rentre dans un cercle vertueux, le microbiote va aider à faire perdre du poids.
Antoine Avignon, je rappelle que vous êtes endocrinologue.
Alors, il y a une publication tout à fait récente, et c'est pas la seule, il y a des publications qui montrent même qu'il y a un rythme circadien du microbiote et que les bactéries dans le tube digestif changent au cours de la journée et que, effectivement, y compris des jeûnes courts peuvent entraîner quand même certaines modifications. Après, ce que je voudrais dire, c'est quand même que le nombre d'arguments scientifiques pour dire qu'une alimentation restreinte en calories est favorable à la santé, ça, il y en a des tas. Les populations qui vivent le plus longtemps, si on cite la population d'Okinawa, la première spécificité de la population d'Okinawa, c'est d'avoir une alimentation très restreinte en calories. La question qui se pose effectivement, comme ça vient d'être dit, ça sert à rien de prendre quelqu'un qui est malade et de le mettre à un jeûne pendant 5 jours si derrière il n'y a pas d'accompagnement pour comment changer mon alimentation sur le long terme. Et mon alimentation, ça n'est pas qu'un rapport à l'aliment, c'est un rapport à la société, c'est un rapport au stress, c'est un rapport à tout un tas de choses. Donc c'est une prise en charge globale, holistique, qui ne se centre pas simplement sur des conseils nutritionnels et alimentaires.
Tiens, je cite une autre étude récente publiée dans Nature du biologiste Takayuki Teruya de l'Institut des sciences et technologies d'Okinawa. Selon ces études, le jeûne accélère le métabolisme et entraîne la libération de molécules antioxydantes. C'est une étude menée par 4 volontaires qui ont jeûné entre 34 à 58 heures. Docteur Serog, vous vouliez intervenir sur les bienfaits du jeûne éventuel?
Non, je ne vais pas intervenir. Non, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Avignon. Quand on fait un jeûne, il faut que ça soit dans un projet.
Ouais. Global.
Global, et pas uniquement faire le jeûne pour se détoxifier. Mmh. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut changer peut-être son stress, son environnement, et manger différemment sur le long terme.
Bonjour Catherine, bienvenue.
Bonjour.
Alors, quel est votre témoignage ce matin?
Alors moi, je pratique le jeûne intermittent. Je voudrais dire surtout que je n'en fais pas la publicité parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était bon pour moi. Mais moi, je peux le faire facilement, notamment parce que maintenant, j'ai 56 ans, je n'ai plus d'enfants à la maison. Mmh. Donc, j'ai plus à préparer de repas de soir, par exemple. Enfin, c'est plus... Voilà, je voulais simplement dire que je ne fais pas du prosélytisme pour le jeûne intermittent. Simplement, c'est bon pour moi. Pourquoi c'est bon? D'abord parce que moi j'avais une candidose chronique et des infections urinaires, des cystites qui revenaient régulièrement, et je me suis rendu compte de manière empirique, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais de manière empirique, je me suis rendu compte qu'avec plus j'avais de sucre et lorsque je buvais un peu aussi, notamment du vin blanc, ça réactivait cela. Et depuis que j'ai diminué mes apports en sucre, mes apports en alcool, j'ai réussi à, de manière naturelle, en ayant beaucoup moins recours aux médicaments, de réguler ces deux inconvénients. Et ce qui me confirme un peu dans mon hypothèse empirique, c'est que là, avec les fêtes, j'ai fait des excès, j'ai rompu le jeûne intermittent parce que socialement, c'était compliqué, j'ai bu beaucoup plus, et ça m'a réactivé à la fois la candidose et j'ai eu à nouveau une cystite. Donc là, je fais détox de janvier en réactivant et en reprenant mon jeûne intermittent, qui me convient très bien, qui m'amène plus de vitalité et qui me permet aussi à moi de garder mon addiction à moi qui est le chocolat noir.
Je la comprends.
Donc, mon addiction au chocolat noir, je peux l'assouvir sans aucun problème grâce au jeûne intermittent. Ce que je pouvais pas faire avant parce que j'en mangeais par exemple le soir et à 56 ans et étant ménopausée, j'avais remarqué que je prenais beaucoup de poids. Depuis que je ne mange plus mon chocolat le soir à 21h ou à 20h, et j'ai aussi en bénéfice associé, j'ai régulé ma prise de poids. Donc je ne dis pas que j'ai maigri, je veux pas faire la pub du jeûne intermittent pour maigrir, mais j'ai régulé ma prise de poids. J'ai stabilisé ma prise de poids.
Professeur Antonin Avignon, redites-nous en quoi consiste le jeûne intermittent que l'on appelle également fenêtre d'alimentation restreinte. Donnez-nous un exemple concret de ce qu'est le jeûne intermittent ou séquentiel.
Alors, je peux me permettre de répondre, de répondre à Catherine, parce que j'apprécie beaucoup la manière dont elle est intervenue et je trouve ça très très bien. Déjà, je partage la passion du chocolat noir, donc c'est déjà un premier point, c'est pour ça que je l'apprécie, mais pas uniquement, parce qu'elle a dit j'ai fait pour moi, j'ai observé pour moi et nous sommes tous particuliers et ça c'est important. J'observe pour moi, je ne fais pas le prosélytisme pour les autres, donc merci beaucoup pour ce témoignage. Donc les jeûnes intermittents qui ont été démontrés comme ayant un intérêt sur le plan scientifique, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a deux principaux, c'est le 5-2, c'est donc 5 jours d'une alimentation qui est une alimentation, je dirais, qui est quand même, j'aime pas trop ce terme, mais qui est quand même équilibrée, et puis 2 jours où je restreins fortement, voire je jeûne complètement par semaine. Plutôt pas consécutif ces 2 jours. Et puis, il y a le 8-16, donc je concentre ma période de prise alimentaire sur 8 heures et je reste 16 heures sans manger.
Alors tout à l'heure, concrètement, on saute par exemple le dîner et on déjeune le lendemain midi.
Si on saute le dîner, on va prendre le petit déjeuner. On saute soit le dîner, soit le petit déjeuner.
Voilà, c'est ça.
En sachant que les études ont montré que sauter le dîner était plutôt un peu plus favorable.
Il y a pas de grande différence. On saute le dîner. On dîne. Soit on saute le dîner.
Soit on ne dîne pas. Voilà. Soit on ne petit déjeune pas.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et l'acétose, puisque les corps cétoniques, ça a déjà été dit plusieurs fois, ont des effets très favorables sur la santé. L'acétose met pas 4 jours à apparaître. Hein. Là, c'est pareil, on est tous variables, mais c'est entre 12 et 16 heures. C'est pour ça qu'on conseille 16 heures, parce que chez la majorité des personnes, c'est 16 heures. Et ce qu'on recherche, c'est la production de corps cétoniques qui ont tout un tas d'effets favorables.
Professeur Perlmutter, sur le jeûne intermittent?
Non, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je ferai une remarque. Je trouve qu'en termes de biorythme, il est plus logique de sauter le dîner que de sauter le petit déjeuner, où l'organisme se remet en route, où il y a eu des prix Nobel sur le biorythme, où ça me semble. Et dans l'expérience que j'ai, ça c'est pas scientifique, c'est mon expérience, les personnes qui ont des maladies du foie liées à l'alimentation, c'est le petit déjeuner qui souvent est raté. Et je pense que la journée démarre mal. Mais ça, c'est mon expérience personnelle.
Patrick Sarogne.
Alors, mon expérience est un peu différente. C'est variable en fonction de chacun. Il y a des gens le matin qui ne peuvent pas manger. Ça les arrange beaucoup de faire un jeûne intermittent et d'attendre les 16 heures. Et il y en a d'autres, au contraire, qui le soir n'aiment pas trop manger parce qu'ils vont mal dormir, parce qu'ils se sentent moins bien, ils se sentent lourds, et préfèrent sauter le dîner. Donc, je veux dire que là, c'est vraiment une adaptation par rapport à chacun d'entre nous.
Merci beaucoup, Catherine, de nous avoir appelés. On continue à s'intéresser au détox, au jeûne, dans quelques instants, après avoir écouté Hills qui interprète Steam Engine. Steam Engine.
Si l'embonpoint devait s'accentuer, il pourrait y avoir une tension de la peau qui provoquerait une distorsion du tatouage.
Grand bien vous fasse.
Bah alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Tu régimes.
Face à jamais.
Sur France Inter.
10h54, quels sont les réels bienfaits du jeûne et des cures détox? Élément de réponse avec nos experts. Une auditrice, Fanny, nous demande s'il est bon de faire un jeûne ou une détox après un Covid long. Patrick Sérog.
J'ai pas tellement d'idées sur le sujet, hein. Franchement, après un Covid long, surtout s'il a été pénible, je vois mal comment on va en plus encore affaiblir un peu l'organisme.
Hein. Professeur Antoine Avignon.
Oui, pas de données scientifiques là-dessus, donc ça ne serait qu'un avis qui ne serait basé sur rien, donc je ne donne pas.
Thomas Hull, il y a beaucoup de questions sur l'après-jeûne, quand on a fait un jeûne de 4-5 jours, ou quand on fait un jeûne alterné, séquentiel. Est-ce que il est bon de faire de l'activité physique? Et comment on finit son jeûne? Qu'est-ce qui se passe quelques jours après? Comment il faut s'y prendre pour ne pas faire trop de bêtises?
Alors c'est essentiel, Ali. La reprise alimentaire est tout aussi importante, voire même plus importante que la préparation. Donc on reprend une alimentation végétale, exclusivement végétale pour commencer. C'est également en fonction du nombre de jours de jeûne qui a été réalisé. On dit qu'on a autant de jours de reprise que de jours de jeûne. Donc si j'ai fait simplement 16 heures, je fais attention les 16 heures qui suivent et ainsi de suite. Si par contre j'ai réalisé un jeûne de 3 jours ou de 5 jours, j'ai 3 à 5 jours de reprise alimentaire qui suivent. Ou on a l'hydratation qui doit être très importante, car quand on jeûne, on est à peu près à 3 litres de liquide consommé par jour, vu qu'on n'a pas d'apport de liquide par l'alimentation. Donc il faut bien continuer à s'hydrater, même en reprise alimentaire, du végétal, et on réintroduit à partir du 3e jour les céréales, des protéines après végétal, pour revenir au bout de 5 jours à une alimentation du quotidien.
Et l'activité physique pendant le jeûne, ou la détox, et après, en quelques mots?
Essentiel pendant, c'est une activité douce, on n'est pas dans le challenge, on n'est pas dans le cardio, on est dans une activité douce, endurante,
la marche,
qui nous fait du bien, de la marche par excellence, ou aujourd'hui même du VTT électrique par exemple, où on est sur l'activité douce qui nous fait du bien et qui mobilise le corps. Et pareil dans la reprise, une des clés vraiment dans l'après-jeûne, c'est de continuer tous les rituels qui nous font du bien. Autant l'activité physique, autant sur l'alimentation que sur tout ce qui peut engendrer du bien-être.
Stéphane nous demande quels sont les dangers du jeûne sec sans boire et manger. Je crois que la réponse est dans la question. Antoine Avignon.
Oui, comme ça vient d'être dit, je crois que le corps a besoin d'être hydraté. On parle de fonction d'élimination et sans apport de liquide, je ne vois pas comment elles peuvent se réaliser. Donc,
on n'a pas parlé des charlatans qui préconisent des jeûnes, des détox à la place des traitements médicamenteux. Quand on est atteint d'une maladie chronique, d'un cancer,
il faut vraiment les fuir le plus loin possible. C'est vraiment extrêmement dangereux. Le jeûne a été utilisé par certains cancers, et même encore toujours utilisé par certains cancérologues, dans certains cas très précis, pour améliorer l'effet de la chimiothérapie, mais c'est vraiment sous un
Walter
contrôle.
Longo, par exemple, aux États-Unis.
Mais sous un contrôle médical extrêmement précis. Par contre, tous les charlatans qui veulent, qui préconisent des jeûnes pour guérir le cancer, les inflammations et tout ça. À la place des traitements, évidemment, tout ça, c'est extrêmement dangereux.
Une question récurrente ce matin, est-il bien utile d'entamer un régime pour perdre du poids en ce début d'année? C'est une résolution de nombre d'entre nous. Antoine Avignon.
Il n'est jamais bon d'entreprendre un régime. Comment entreprendre et combien de temps ça va durer? On a parlé tout à l'heure de l'effet rebond. Un régime, ça veut dire conformer son alimentation à ce que quelqu'un me dit de l'extérieur. On ne peut jamais le suivre sur le long terme.
Docteur Serog.
Il faut se sentir prêt à changer un petit peu son mode de vie et commencer vraiment une hygiène de vie qui est différente. Pas la peine de se précipiter sur un régime, ce n'est qu'une facette effectivement du désir de perdre du poids. C'est tout un ensemble de mesures qu'il faut prendre, et pour ça, il faut attendre qu'on soit prêt.
Quelle est la bonne stratégie de bon sens, alors, justement?
Le bon sens, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à faire de l'activité physique? Est-ce que je suis prêt à...
Réguler mon stress.
À réguler mon stress, et ainsi de suite, voilà.
C'est très bien, mais Ali, permettez-moi, tout le monde est prêt à réguler son stress. C'est très compliqué de réguler son stress, permettez-moi.
Le stress chronique,
c'est très compliqué. Ouais. Je pense que le mois de janvier, pour moi, en tant que médecin du foie, est connu pour un mois où on souhaite arrêter l'alcool. Pourquoi ne pas le prendre pour aussi essayer de modifier son alimentation? C'est comme on le sent.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est important dans notre société pour réguler son alimentation, c'est le sommeil. Moi, j'ai toujours 4 éléments qui sont les 4 piliers du mode de vie. C'est la gestion du stress et des émotions, c'est la gestion du sommeil, c'est l'activité physique et c'est l'alimentation. Et je les mets toujours dans cet ordre. Parce que si j'ai pas régulé mon stress et mes émotions, si j'ai pas un sommeil régulier, il n'est pas possible de mettre en place des changements alimentaires sur long terme.
Merci à tous d'être venus. On peut retrouver votre bibliographie sur le site et sur l'appli France Inter. Demain, dans Grand Main vous fasse, on s'intéressera aux bienfaits de la couleur dans notre décoration intérieure.